Moi je voulais parler pour le collectif Paris Ayotzinapa. Peut-être vous avez entendu de l'affaire des 43 étudiants disparus au Mexique en septembre 2014. Alors nous, on est un groupe qui s'est formé dans les manifestations pour protester contre cette affaire, pour qu'il y ait justice. Et alors on s'est rencontrés, on a fait un collectif pour pouvoir faire des actions ensemble et en même temps de façon anonyme. Et on a eu plusieurs moments forts. Par exemple, le premier qu'on a eu, c'est quand il y a eu les étudiants de Ayotzinapa qui sont venus faire une caravane européenne, qui ont participé ici à une manif. Et après, c'est quand il y a Peña Nieto, le président du Mexique, qui est venu en France comme invité le 14 juillet. Et il n'y avait pas seulement Peña Nieto qui venait, il y avait aussi l'armée mexicaine qui a défilé pendant les célébrations du 14 juillet. Et il faut dire que l'armée mexicaine, elle souffre. Bon, il y a beaucoup de critiques, particulièrement en ce moment, contre l'armée mexicaine, qui a une action de contre-insurrection. D'ailleurs, hier, on a célébré les 45 ans de la matanza en Apenel Alconazo, que c'est, bon, c'est les Faucons, que c'est en fait un groupe paramilitaire qui est rentré dans une manif et ils ont commencé à tirer dessus sur les étudiants. Et il y a eu, on ne sait pas très bien le chiffre, mais on calcule ça à une centaine de morts et de disparus parmi les manifestants. Et les chefs de ces groupes paramilitaires, c'était des soldats formés par les États-Unis. Un d'entre eux a été, parce qu'on a vu le film du film Condor, était attaché militaire à l'ambassade mexicaine au Chili juste avant le coup d'État. Et d'ailleurs, le Mexique a retiré son ambassadeur, mais il a laissé l'attaché militaire sur place, ce qui démontre un peu le double discours du gouvernement mexicain à l'époque, qui a reçu le président Allende, mais en même temps, il envoyait des attachés militaires experts aussi en technique de contre-insurrection. Et l'armée mexicaine, aujourd'hui, par exemple, il y a des études qui disent qu'il y a, dans des affrontements, c'est plus facile de blesser quelqu'un que d'en tuer. Et le rapport moyen, c'est un tué pour quatre blessés. Mais l'armée mexicaine, aujourd'hui, on a 8 tués pour chaque blessé. Ce qui s'explique uniquement dans les affrontements avec les narcotrafiquants. Et cela s'explique uniquement parce qu'il y a des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire qu'on a découvert un ordre, ça a été public, que l'armée mexicaine a l'ordre d'abattre les délinquants avec cette terminologie-là. Et on en voit bien les résultats. Par exemple, il y a le cas de Tlatlaya où des supposés narcotrafiquants ont été tous exécutés, plus d'une dizaine. Et après, on a planté les évidences, on a fait comme si eux, ils avaient des armes quand ils n'étaient pas armés. Bref, au Mexique, récemment, on a des dizaines de cas, il n'y en a que les très grands qui sortent publiquement, comme celui des 43 étudiants, qui d'ailleurs, dans l'affaire, il y a eu des armes allemandes qui ont été impliquées et qui ont été vendues illégalement. L'entreprise a détourné, parce que même la loi allemande interdit de vendre des armes à certaines régions du Mexique, comme le Guerrero, où a eu lieu cette affaire des 43 étudiants. Et l'entreprise allemande a falsifié des documents pour pouvoir vendre ces armes à la police locale. Et également, il y a des dizaines d'armes italiennes de la marque Beretta qui sont là. Et bref, on sait bien qu'il y a encore de la collaboration militaire et policière. Les gendarmes mexicains sont formés par la gendarmerie française et ils ont commis plusieurs abus, comme ce qu'on voit ici, des jeunes assassinés par des tirs de flashball ou des gaz lacrymogènes. Par exemple, aussi, ça a été l'anniversaire de Antonio Diaz, qui a été assassiné dans une manif juste avant les élections de l'année dernière, aussi tué par la police. Et bref, nous, on a beaucoup travaillé avec le CSPCL et c'est les actions qu'on a faites. C'est surtout quand il y a eu l'Eurocaravane avec les parents des disparus et des manifestations lors de la venue du président Peña Nieto, qui venait, entre autres, acheter des armes aussi, des hélicoptères Super Puma. Eux, ils disent que c'est pour le transport des troupes. Mais il y a des cas où les soldats tirent sur des supposés délinquants qui fuient presque nus, et ils tirent sur eux depuis des hélicoptères. Alors, On voit bien que les ventes d'armes qui se font au Mexique, elles vont être utilisées contre des civils. Tous les chiffres le démontrent. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole.
Que nous-mêmes, comme collectif, on est même touchés pour cette collaboration policière entre la police mexicaine et française. Justement, comme ils ont déjà raconté, le 14 juillet de l'année dernière, on a fait pas mal d'actions contre cette invitation d'honneur du président mexicain au défilé du 14 juillet. Et une de notre action, c'était assister au défilé. Et c'était simplement montrer les mains avec des peintures rouges et crier à Ayotzinapa vive quand il avait l'armée mexicaine qui défilait. Et du coup, on a eu quelques réunions avant pour organiser l'action. Et le jour même, on était organisé pour pas parler entre nous. On était isolés dans un coin de 100 mètres, je crois, au plus de 100 mètres. On était chacun isolé. Moi, j'étais derrière. Et on a vu aussi, moi, personnellement, j'ai vu des polices mexicains 2 semaines avant dans une voiture de police française. Du coup, là, tu te vois qu'ils étaient déjà en avance. Et le jour même, la police française, comment il s'appelle, la police qui est en civil, la BAC, a pris à tous les collègues du collectif, comme ça, tu vois. Toi, tu viens avec moi, toi, tu viens avec moi, toi, tu viens avec moi, et toi, tu viens avec moi. Et ils ont pris 5 heures, un truc comme ça. Ils ont levé pendant 5 heures à faire contrôle d'identité, tout ça. Du coup, ils nous tenaient hyper bien réparés, ils savaient qu'on était là, et voilà quoi. C'est là aussi qu'on voit la coopération mexicaine-française.
Si vous voulez sur la situation à Ayotzinapa maintenant, peut-être.
Moi, comment, si vous savez un peu la situation, la version du gouvernement, que la dite vérité historique, c'est que les étudiants étaient confondus avec avec des narcotrafiquants. Et c'est pour ça qu'ils ont été attaqués avec cette violence et ils ont été tués, brûlés dans une décharge et leurs cendres jetées dans une rivière. Mais il y a plusieurs groupes d'experts internationaux qui ont fait des expertises et qui ont démontré que cela, c'était impossible. D'ailleurs, le 26 juin prochain, on va faire une projection dans laquelle ça démontre que cette vérité historique n'a pas pu avoir lieu. Et il démontre aussi l'implication de l'armée dans la disparition des 43 étudiants, parce que tout pointe à une coordination entre des criminels, différents niveaux de police et l'armée, qui au moins a regardé mourir, comme c'est le nom du film. Ils ont laissé tout faire, ils ont bloqué des routes pour que les criminels et les policiers puissent agir sans être inquiétés. Et le dernier rapport des experts qui ont été plus ou moins expulsés du pays pointe aussi à que le directeur du FBI mexicain, l'équivalent qui s'appelle Thomas Cerón, était de l'endroit où on a découvert le seul os qui a permis une identification de l'étudiant. Il était un jour avant d'avoir découvert l'os avec un supposé tueur qui a avoué sur la torture avoir tué les étudiants. Il était un jour avant sans avoir laissé aucun registre, ce qui laisse supposer que toutes les évidences qui ont été là, ils ont été plantées. C'est les scènes de lieu, les sites du crime et tout ça, ils ont été manipulés et ça démontre une volonté que l'État ne peut pas se juger lui-même. Et d'ailleurs, il est en train de cacher tous les vrais responsables parce qu'il y a des personnes qui ont été brûlées dans la décharge et ils veulent les faire passer comme s'ils étaient des étudiants. Alors qu'il y en a plus de 300 disparus seulement dans la ville où ils ont disparu, à Iguala. Alors c'est une situation vraiment inquiétante et d'une grande impunité parce que les disparitions continuent. Chaque jour, on en voit tous les jours une ou autre. C'est des cas, c'est des individuels. Alors ça sort pas dans la presse, ça sort que quand ça c'est massif à ce point. Et bon. Je ne sais pas, ce qui démontre aussi, c'est que l'école des Amériques, dont on parlait dans le film, il y a le groupe criminel Los Zetas, c'était une branche de l'armée mexicaine formée dans l'école des Amériques, de la section d'élite de l'armée, qui a sorti de l'armée et il a fait son propre groupe, le bras armé d'un cartel de la drogue, que c'est un groupe paramilitaire qui kidnappe, qui fait disparaître des gens. Maintenant, on sait qu'ils utilisent les prisons pour kidnapper les gens. Alors, on te kidnappe et tu es dans la prison. Et ils tuent les gens à l'intérieur des prisons et ils les font disparaître avec les fours, tout ça à l'intérieur de la prison. Alors, il y a toute cette stratégie de contre-insurrection que moi, je crois que c'est dans cette continuité. Mais ce n'est pas forcément les soldats qui le font maintenant. Maintenant, c'est sous-traité à des agents, à des criminels qui sont en totale complicité avec l'État. Et c'est démontré.
Oui, parce que c'est un groupe de paramilitaires formés aux États-Unis qui est aujourd'hui formé Los Zetas, qui sont des narcos au Mexique.
C'est ça, oui.